VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Très heureux d'accord à 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à Yamoussoukro, capitale administrative du pays, après la mort d'un homme aux mains de la police. Des jeunes ont attaqué le commissariat du 12e arrondissement dans le quartier d'Oulabougou. Les affrontements ont duré plusieurs heures, a déclaré à l'AFP un habitant de Yamoussoukro, joint au téléphone depuis Abidjan. Les assaillants ont placé des pneus et des troncs d'arbres pour couper l'accès au commissariat avant de donner l'assaut et empêcher de ce fait tout renfort, a souligné une source sécuritaire s'inquiétant de ce qu'il a appelé un dérapage dangereux. Les accrochages ont éclaté au lendemain de la mort d'un jeune de Yamoussoukro après une opération de police. Mercredi, 4 personnes, dont 2 gendarmes, avaient été tuées lors d'affrontements entre population et forces de l'ordre dans le village de Niamoué, à 70 km de Bouna, dans le nord-est du pays, après un contrôle de gendarmes qui a dégénéré en coup de feu. La ville de Bouna avait été secouée en mars par des troubles ayant fait 19 morts. Rappelons qu'en octobre, tous les policiers de la ville de Kadiola, dans le centre nord, avaient été mutés après une bavure aux policiers qui avait elle aussi dégénéré en émeute. On reste en Côte d'Ivoire où le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo continue. Madame Gbagbo avait refusé de comparaître et le juge Boaki Kwadio, président de la cour d'assises, a décidé que le procès se poursuivra sans elle et avec des avocats commis d'office. La prochaine audience aura lieu le 28 novembre. Maître Rodrigue Dadier, l'un des avocats de Simone Gbagbo, explique les raisons pour lesquelles sa cliente ne comparaîtra pas.
Aoussou Jeannot et les autres ont organisé la marche dite pacifique du RHDP, oui. Où Aoussou reconnaît avoir fait former avec le RHDP 300 jeunes qui ne sont pas des femmelettes, ont été bien formés à la guérilla urbaine pour semer le trouble à Abidjan, dont notamment la marche de la STI. Donc on lui demande de venir s'expliquer. Guillaume Soro qui donne les ordres à ses forces armées, forces nouvelles, de prendre les équipements de combat pour venir en participer à la marche. De l'autre côté, le directeur général de la police sous M. Laurent Gbagbo et l'actuel directeur général de la police sous M. Ouattara. Et c'est lui qui a désigné ces éléments de police pour sécuriser la marche. Et ce sont eux qui sont accusés d'avoir tiré sur les manifestants sur ordre de Mme Gbagbo selon la justice ivoirienne. Donc on veut que la direction générale de la police soit entendue pour nous répondre sur le fait qu'elle a effectivement tiré, dans quelles conditions et qui lui a donné les ordres. Ces acteurs-là, c'est la même chose en ce qui concerne Abobo, la marche des femmes d'Abobo où on accuse la police et la gendarmerie d'avoir tiré. Nous demandons donc au commandant du corps commando d'Abobo, qui était M. Ouattara Obiénéré, de venir comparaître pour savoir s'ils ont effectivement tiré. Nous demandons au général Kassaraté, qui est le commandant supérieur de la gendarmerie, de venir comparaître pour nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Nous demandons à M. Philippe Mongou, qui était le chef d'état-major, de venir comparaître pour nous dire ce qui s'est passé. Mais de deux qui nous disent qu'il leur aurait donné des ordres. Parce que Mme Gbagbo n'étant pas militaire, elle ne peut pas donner des ordres à l'armée. Et les ordres dans l'armée et la police en Côte d'Ivoire sont les ordres qui sont écrits. Donc,
Maître Rodrigue Dadier, l'un des avocats de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Au Tchad, bras de fer entre le gouvernement et l'opposition qui maintient son meeting prévu dans l'après-midi à N'Djamena malgré l'interdiction de tout rassemblement public par le ministre de la Sécurité publique, Amat Mahamat Bachir. Plus tôt ce jeudi, le gouvernement a désamorcé le projet d'examen d'une motion de censure déposée par les opposants. La séance ayant été annulée à l'Assemblée nationale, faute de quorum de députés présents. Les élus de la majorité ne sont pas venus en séance à l'appel du président Idriss Déby, qui a écourté son séjour à Marrakech, au Maroc, à la conférence sur le climat, pour rentrer chez lui en vue de gérer personnellement les tensions actuelles dans le pays. Il y avait 110 absents sur 184 députés, a déclaré à l'AFP le leader de l'opposition Salé Kebzabo. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée, une autre séance doit être programmée dans les 72 heures. Une réunion devait avoir lieu en principe dans l'après-midi pour fixer le nouvel ordre du jour de l'Assemblée. Les députés d'opposition voulaient sanctionner le gouvernement du Premier ministre Albert Pahimi Padake pour sa gestion de la grave crise que traverse le pays suite à la chute des cours du pétrole. L'opposition réunie dans un front de l'opposition nationale pour l'alternance et le changement, FONAC, est déterminé à tenir un rassemblement public à partir de 15h, heure locale, 13h, temps universel. Dossier Centrafrique, à l'ouverture d'une conférence de donateurs à Bruxelles, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à faire preuve de solidarité et générosité pour aider au relèvement de son pays ruiné par la guerre. Il a présenté un plan de redressement chiffré à 3,1 milliards de dollars sur 5 ans, dont 1,6 milliard pour les trois premières années. Et il s'est engagé à bien gérer toute assistance fournie par les donateurs. Mais le montant des promesses de dons attendues dans la journée semblait incertain. Rien n'est acquis. On ne sait pas encore si on va atteindre ces chiffres, a déclaré à l'AFP le secrétaire français au développement, André Valigny, qui dit compter sur une mobilisation des donateurs européens notamment. La Centrafrique, classée parmi les pays les plus pauvres du monde, peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement de l'ex-président François Bozizé par des rebelles Séléka majoritairement musulmans. Cela avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Soudan du Sud, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a mis en garde contre le risque d'atrocité de masse dans le pays. Il a aussi averti que les casques bleus n'auraient pas les moyens de les empêcher. Une force africaine de 4000 soldats devait être déployée pour épauler la mission onusienne, la MINUS. Son déploiement prend du retard et le gouvernement de Djouba ne lui accorde qu'un soutien du bout des lèvres. Eric Manirakiza.
Dans une lettre au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon note que le risque d'atrocité de masse est très élevé du fait de la recrudescence des discours haineux et de l'incitation aux violences ethniques au Soudan du Sud. Certes, 13 000 casques bleus et 2 000 policiers feront tout pour protéger les civils, mais d'après le secrétaire général de l'ONU, les opérations de maintien de la paix n'ont pas les effectifs ni les capacités pour intervenir en cas d'atrocité de masse. Une force africaine de 4 000 soldats devait être déployée pour épauler la mission onusienne. Son déploiement prend du retard et le gouvernement de Djouba ne lui accorde qu'un soutien du bout des lèvres. Le mandat de la MINUS expire en décembre et avant son renouvellement, Ban Ki-moon estime que le Conseil de sécurité devrait décréter un embargo sur les armes et prendre des sanctions ciblées contre les personnes qui font obstruction au fragile processus de paix dans le plus jeune pays du continent.
En RDC, des voix s'élèvent pour condamner l'assassinat de journalistes à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Notre confrère a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des hommes en uniforme, Eddie Sango.
Les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté des presses dénoncent le meurtre de Marcel Lubala, journaliste de la radio-télévision publique en Mbujimayi, dans les chefs-lieux du Kasaï oriental. La victime a été abattue par des hommes en uniforme qui l'ont appelé par son nom en pleine nuit pendant qu'il dormait avec sa famille. Ils l'ont ligoté et lui ont bandé les yeux avant de lui tirer dessus dans la parcelle voisine où il avait réussi à s'échapper. Selon Joseph Boukar Kasunga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, Marcel Lubala, la veille, avait été convoqué à l'Agence nationale des renseignements pour une soi-disant affaire familiale. Il est le 16e journaliste tué en RDC en 10 ans. Début novembre, l'association Journalistes en danger a dénoncé la montée des attaques ciblées contre la presse dans un pays qui occupe la 152e place sur 178 dans les classements mondiaux des Reporters sans frontières.
Au Maroc, un sommet africain s'est réuni hier à Marrakech en marge de la COP 22 pour harmoniser la position de l'Afrique face au réchauffement de la planète. Voulu par Rabat, ce sommet a réuni une quarantaine de dirigeants africains. Pour le roi Mohamed VI, l'Afrique perd un lourd tribut dans l'équation climat et représente sans aucun doute le continent le plus pénalisé par ces bouleversements qui menacent gravement les droits élémentaires de plusieurs dizaines de millions d'Africains. Et pour terminer, la politique en France, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche sur un programme populiste pèse sur la course présidentielle dans le pays et nourrit les tensions entre les prétendants à l'investiture de la droite face à une extrême droite remontée à bloc. Le sujet Trump sera immanquablement abordé ce soir lors du dernier débat télévisé entre les 7 candidats à la primaire de droite avant le premier tour de scrutin prévu dimanche. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.